Double Face, Valérie Ogier.
Invité de Double Face ce dimanche, Roland Buty, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Vous faites partie des auteurs et autrices en lice, donc pour le prix du livre de la ville de Lausanne, avec votre roman paru aux éditions Zoé, Les Petites Musiques. Avant de parler de votre parcours, de vos références, de vos projets, de vos envies, être en lice pour un prix, ça met une pression particulière pour l'écrivain que vous êtes ?
Non, pas vraiment. Moi, j'ai l'habitude un petit peu. J'ai un peu roulé ma bosse là. Mais enfin, c'est toujours un vrai plaisir d'être sélectionné par des lecteurs. Parce qu'à la base, c'est comme un groupe de personnes qui se réunit. Il y a plein de livres qui existent. Et puis, on choisit le vôtre. Alors, ensuite, moi, je ne conçois pas la littérature comme une compétition. Enfin, ce n'est pas un grand prix de Formule 1, on essaie de tourner tous le plus vite. Mais ça fait très, très plaisir. Et puis, ça fait parler du livre, justement. Et c'est la raison pour laquelle, on est, par exemple, on est invité sur le Zan FM.
Et alors, justement, vous avez un peu l'habitude, quand même, des prix et des reconnaissances, puisque Les Petites Musiques, sorties en début d'année, votre livre en lice, donc, c'est votre sixième ouvrage. Il est paru aux éditions Zoé, comme tous ceux que vous avez écrits jusque-là. Votre premier ouvrage, c'était il y a plus de 20 ans, en 2004, Un nuage sur l'œil. Et puis en 2013, Le milieu de l'horizon. Et là, vous avez reçu un prix suisse de littérature. Votre ouvrage a été traduit en 7 langues et adapté au cinéma. Petit clin d'œil au passage, le parrain de cette année pour le prix du livre de la ville de Lausanne, c'est Lionel Bayer, réalisateur vaudois. Et donc, une possibilité peut-être d'imaginer aussi votre ouvrage en images ?
Oui, tout à fait. Je sais que j'ai reçu, il y a eu plusieurs personnes qui s'intéressent pour le film, parce que en fait, j'ai une écriture assez cinématographique. Moi, je suis visuel, je visualise, et même mes personnages sont construits d'une manière visuelle. Enfin, ils sont construits avec des effets de lumière corporellement, comme j'imagine un peintre ou un cinéaste imagine de créer une photographie qui fait exister à l'écran les personnages. Et le roman, comme la plupart de mes romans, sont faits de scènes successives où l'action et la psychologie des personnages se comprend d'abord par leurs gestes, par leur situation, plutôt que par leur intériorité.
Il y a une précision aussi dans chaque description, dans chaque geste que vous décrivez. Ça veut dire que vous le visualisez, c'est comme ça que se manifeste l'inspiration pour vous ?
Ah vraiment, moi je pense que c'est visuel. Aussi pour les descriptions de paysages qui sont assez importantes dans le livre, de la nature, c'est d'abord, je visualise. Et même les scènes, j'essaie de voir les personnages bouger, en fait, dans ma tête. Je les fais bouger et de décrire leurs mouvements, leurs gestes, avec l'idée que, voilà, un geste, il y a un langage du corps. Et que suivant comment on met sa casquette, on enlève sa casquette, on met ses chaussures, si on décrit, ça peut dire quelque chose sur la psychologie intérieure du personnage, sur les relations avec les autres. On communique énormément avec le corps. Donc, c'est plutôt mon genre d'imaginer la littérature plutôt comme étant quelque chose de concret, de très concret, donc visuel et aussi olfactif. Si on remarque, j'aime bien qu'on sente aussi les odeurs, que ce soit assez physique en réalité.
Les Petites Musiques se déroulent à Sainte-Croix, ça c'est le décor, on va y revenir. Mais parlons littérature avant. Vous êtes tombé dans l'écriture tout petit, vous rêviez petit d'être écrivain, Roland Buty ?
Oui, je pense que déjà tout petit, je devais bricoler, genre à l'âge de 4-5 ans, des livres de 2 pages avec du scotch et des agrafes, avec genre un mot ou une image par page. Mais vous avez été gentil de me rajeunir, parce que mon premier livre chez Zoé, c'est 1991, Les âmes lestées, ça s'appelait, c'était des nouvelles. Donc quand même, c'était encore avant 2004, nettement avant 2004.
Là, vous étiez dans la trentaine.
J'avais 25 ans, voilà, j'avais 25 ans quand j'ai écrit ça. Ouais. Donc, je pense que, en fait, l'idée, c'est ça, c'est que, d'abord, c'est nos parents qui nous lisent des histoires. Moi, j'ai le souvenir absolument magnifique aussi d'audio. C'est-à-dire, on avait des bandes magnétiques et j'ai écouté, alors on était enfant, c'était quand j'étais malade, Le Petit Prince, lu par Gérard Philippe.
Et puis à ensuite, mille de toute terre
voilà,
habitée.
Et ensuite, Chèvre, Monsieur Seguin, les Daudet par Fernandel, avec l'accent du Sud. Et ouais, c'est, alors là, on est tellement pris dans ces histoires fascinées, et puis ensuite la lecture des premiers livres, qu'on se dit, mais pour être encore plus dans les histoires, être encore plus dans les livres, bah, il faudrait les écrire soi-même.
Mais alors, de 4 ans à 25 ans, qu'est-ce qui se passe pour Roland Buty? Vous écrivez, vous notez dans des
cahiers? Non, rien du tout. Parce que c'est la période où on lit beaucoup. Moi, j'étais alors un lecteur boulimique. Et je pense que ouais, le but, c'était un peu de lire tout. Donc, je pouvais lire peut-être... Bah, pendant le service militaire, par exemple, je m'étais lancé le défi de lire un livre par jour au service militaire.
Et vous
l'avez Des livres de poche. Oui, parce qu'en fait, on s'ennuie pas mal à l'armée. Hein, on ne fait pas grand-chose. Et à un moment donné... le lieutenant qui avait compris comment je fonctionnais me disait, mais voilà, monte sur la colline, tu passes la journée et tu redescends. C'est parce que je n'étais pas un très bon soldat que c'était pratique de se débarrasser de moi.
Ou alors il soutenait déjà votre vocation.
Non, sûrement pas, mais c'était surtout parce que j'étais un mauvais soldat.
Et alors, quand tout petit déjà, vous manifestez ce goût pour la lecture, le soutien de la famille ensuite, quand vous dites « je vais faire écrivain »,
Ah non, alors j'ai jamais dit ça. Moi, j'étais passionné aussi par l'histoire et c'était assez clair que j'aime beaucoup parler devant un public et que l'enseignement, ça va être ma vocation. Donc je pense à partir de l'âge de 10-12 ans, à quelque part, je savais que j'allais faire un métier plutôt physique de communication devant des gens et enseignant. Et écrivain, moi, c'est un truc que je me suis jamais avoué. De dire je vais devenir écrivain. J'avais ça quelque part dans ma tête, je me disais ce sera juste impossible, t'auras pas... Et c'est petit à petit que c'est venu. Et même maintenant, aujourd'hui, je suis quand même, j'ai la peine à me représenter moi-même comme écrivain. Je fais des livres, mais je ne suis pas vraiment écrivain. J'ai toujours le doute. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Non, mais écrivain, c'est Hugo, c'est Dickens, c'est et moi, je fais juste des livres comme petit artisan. Et voilà, moi, j'ai toujours travaillé à 100% à côté. Donc, mon métier, c'est prof. J'ai fait la thèse en histoire, je suis historien. Et puis, écrivain, voilà, c'est... Mais alors, d'un autre côté... c'est que, à quelque part, j'ai réalisé un rêve d'enfant de fabriquer des livres, de faire des livres. Et ça, je trouve que si tout le monde pouvait réaliser des rêves d'enfant, le monde serait meilleur.
Roland Buty est notre invité dans Double Face ce dimanche. Réaliser son rêve d'enfant, vous l'avez donc fait. C'est écrivain, votre rêve d'enfant. Il persiste avec ce sixième roman, Les Petites Musiques. Vous le disiez tout à l'heure, je suis professeur d'histoire à plein temps. Et vous écrivez tous les 5 ans, à peu près, en moyenne. C'est une nécessité ou un choix d'écrire un livre tous les 5 ans? Parce que justement, vous êtes occupé à 100% aussi.
C'est une nécessité d'écrire. Moi, j'ai besoin d'écrire. Alors vraiment, c'est une nécessité. Ensuite, c'est vrai qu'il faut aménager du temps. Moi, j'ai grosso modo une journée où on est libéré des cours, où on a un petit peu de temps. Et donc, c'est une matinée par semaine où j'ai le temps vraiment de me mettre à ma table et d'écrire peut-être 2, 3, 4 pages qui ne seront peut-être pas gardées à la fin parce que ensuite, on jette beaucoup.
Vous écrivez à la main?
Non, j'écris à l'ordinateur. Mes premiers étaient écrits à la main, mais là, maintenant, voilà, j'écris à l'ordinateur, mais comme ceux qui sont pas nés avec l'ordinateur, en tapant avec deux doigts, puis c'est très... Mais,
vous faites le geste, d'ailleurs.
Voilà. Et en réalité, l'avantage de travailler lentement, avec sur 5 ans, en travaillant une demi-journée par semaine, c'est qu'on a le temps quand même de relire ce qu'on a écrit longtemps après. C'est parce que si on lit une page qu'on a écrite... 2 ans après, ben, on a une vision presque extérieure par rapport à ce qu'on a fait. Le cas le plus habituel, c'est qu'on fait une page, sur le moment, on est super content. Le lendemain, on revoit, il faut déjà corriger des choses. 6 mois plus tard, on dit, ouais, c'est pas terrible. Et une année après, on jette à la poubelle et ce sera pas dans le livre. Donc, ça, c'est une décantation. Et le temps fait que on a une vision un peu critique, extérieure, par rapport à son propre travail. Et moi, j'imagine que c'est des livres qui deviennent vraiment concentrés, où on va garder l'essentiel, il n'y aura pas trop de mots et de phrases de trop, si on travaille comme ça sur un long terme. Le désavantage, c'est que, suivant, parce que bon, tout d'un coup, une semaine, il y a autre chose et on ne peut pas travailler, c'est qu'on ne se souvient pas toujours d'où on est, de l'histoire, etc. Et que ben, je sais qu'il y a parfois, même quand j'envoie chez l'éditeur, ou même si c'est publié, des petites erreurs de raccord. Par exemple, dans Le Milieu d'Horizon, qui est un livre, il y avait la voiture qui changeait de couleur à un moment donné. Alors ça avait passé jusqu'au moment où le traducteur vous téléphone, mais c'est normal que la voiture change de couleur entre la page et se remet dans l'histoire. Et en même temps, peut-être, c'est aussi quelque chose de positif de se remettre chaque fois dans l'histoire, parce qu'on remet en doute, et du coup, ça fait aussi peut-être des histoires plus complexes, dans le sens qu'on n'est pas dans un seul jet.
Et en même temps, ce regard que vous jetez au fur et à mesure, il faut qu'il soit lucide, ni trop acide, ni trop bienveillant.
C'est clair. Alors, il y a toujours, à un moment donné, besoin du regard extérieur. Donc, c'est ma femme qui lisait, qui était ma première lectrice. Ensuite, l'éditeur, l'éditrice, en l'occurrence, Caroline Couteau. Et puis, ensuite, il y a un travail même sur le livre, encore, là, sur le dernier avec Bruno Pellegrino, où encore, on revoit tout, on modifie encore. Mais parfois, ce n'est pas grand-chose. C'est changer la place d'une phrase dans le paragraphe, c'est changer un paragraphe, c'est changer quelques mots, puis... En fait, ça change tout.
C'est pour le rythme.
Pour le rythme, et pour la logique, et pour la fluidité. Et parfois, c'est des toutes petites choses qu'il faut changer. J'imagine que c'est exactement comme dans une caméra Bolex, qui a peut-être un millier de pièces à l'intérieur. Et c'est clair qu'il suffit parfois, et c'est un petit peu Roca dans le livre qui trouve ça, déplacer une pièce de quelques millimètres ou la mettre ailleurs pour que tout l'effet de la caméra, tout soit meilleur, tout change. Donc, un livre... Un roman, c'est comme un petit monde, une petite mécanique, où à un moment donné, chaque élément du décor, des personnages, etc., doit trouver sa place pour que ce soit harmonieux.
Et on va en parler de ce livre, justement, Les petites musiques, dans quelques instants, Roland Buty. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, cet esprit de précision, donc pour écrire un livre, c'est aussi ce que l'on retrouve dans votre ouvrage « Les petites musiques ». Si on campe le décor... Il y a Sainte-Croix, l'hiver, ça se passe sur la fin de l'âge d'or de la mécanique suisse, et c'est l'histoire de parents et d'un demi-frère et d'une demi-sœur. Et autour de ça, vous tricotez plusieurs histoires.
Oui, alors il y a l'histoire de Roca, immigré italien, et de cette femme qui est projetée là à Sainte-Croix, mais qui vient des Sudètes, qui est une tchèque de Moravie, donc allemande.
Qui est magnifique, ça compte.
Et qui va un peu détonner par sa beauté, puis sa manière un peu exotique de vivre dans cette petite ville protestante renfermée dans les montagnes. Ces deux caractères un petit peu explosifs qui vont petit à peu être éteints aussi par l'atmosphère de la ville. Et naturellement, la trame principale, c'est le fait que Jana, qui est la fille de Roca et de Masha, donc cette tchèque de Moravie, va être une enfant qui veut être libre. Et la liberté, si on la conçoit comme un absolu, c'est impossible. C'est-à-dire les enfants, moi, j'ai pu dans ma vie m'imaginer libre quand j'étais enfant. C'est-à-dire on n'a pas de contraintes, on s'occupe de pas grand-chose et tout est possible. Et à un moment donné, on doit faire des choses qui nous restreignent et qui nous font entrer dans certains cadres. Et on comprend qu'on va avoir des libertés, des possibles, mais limitées. Et Jana, au fond, elle n'admet pas avoir des libertés au pluriel, elle veut la liberté comme absolue. Et la liberté comme absolue, on la trouve, elle la trouve dans la nature. Elle déteste tout ce qui est fermé, tout ce qui est carré, par exemple, toutes ces mécaniques, n'est-ce pas ? Elle, c'est la fluidité de la nature, comme les enfants aiment jouer dehors et pas rentrer à la maison. Et voilà, Jana, elle veut rester jouer dehors tout le temps. Elle ne veut pas rentrer à la maison pour souper. Et le problème, c'est que la société, à un moment donné, ne peut pas accepter qu'à 16 ans, à 17 ans, on ait cette manifestation de la liberté.
Surtout pour une fille à cette époque.
Surtout pour une fille à cette époque. mais pour les garçons aussi, hein, parce que voilà, l'arrière-fond historique du livre, c'est le fait que, dont le droit fédéral de 41 ou 42, je ne me rappelle plus, il y avait la possibilité d'interner, de mettre en prison les asociaux. Et c'était les alcooliques finis ou les prostituées qui faisaient du racolage comme ça. Mais ensuite, dans les années 50-60, il y a une dérive de ça, et des cantons, et on a interprété ça comme la possibilité de priver de liberté à fin d'éducation dans des maisons de redressement, de rééducation, des jeunes gens qui, asociaux, étaient simplement un petit peu marginaux, garçons ou filles, ou qui posaient un problème, mais mineurs, franchement, qui n'étaient pas dans la société. Et le droit a fait que c'était des autorités locales, le préfet, des conseils communaux qui pouvaient signer ces papiers sur la base de rapports de médecins, d'assistants sociaux, etc. Et ça pouvait conduire à une sorte d'engrenage parce qu'il y avait résistance, fugue, etc. Ça allait jusqu'à l'emprisonnement pur et simple. Donc certains garçons se retrouvaient en colonie pénitentiaire, mais vraiment en colonie pénitentiaire, et les jeunes filles dans des prisons où elles se retrouvaient avec les droits communs, avec des femmes qui avaient commis des vrais crimes. Et donc c'était un scandale, n'est-ce pas, cette histoire. Et donc le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, a mandaté une commission, un peu sur le modèle de la commission Berger, dans les années 2010 et quelques. Et cette commission d'historiens, de juristes, qui a revu tout ça, a rendu un rapport de 6 volumes sur le modèle de la commission Berger, hein, vraiment un rapport, en 2019, qui a permis ensuite, effectivement, une réparation. On n'a pas beaucoup parlé en Suisse romande, parce que c'est aussi un petit peu à la Suisse. C'est-à-dire que les deux tiers, pratiquement, du rapport sont en allemand, un tiers en français, puis il y a quelques articles du rapport en italien.
Mais il y a des chiffres avec ?
Oui, alors il y a des chiffres. Ça, c'était quand même plusieurs milliers de jeunes sur la période qui ont été... Alors, dans le canton de Vaud, il y a eu une révision un petit peu... 78-79 du droit cantonal pour corriger ça, mais sur la base de militants, donc, par exemple Anne-Catherine Ménétret ou comme ça, des gens qui ont milité pour abolir ce système dans le droit. Mais au niveau fédéral, je crois que ça disparaît en 81. Là, je parle, mais peut-être je suis pas sûr, je suis historien, mais là, il faudrait que je vérifie maintenant. Parce que, honnêtement, si je suis dans la peau de l'écrivain, j'essaye de me débarrasser aussi un petit peu de détails de l'histoire pour que prime le roman, l'histoire, et que tout ce qui est arrière-fond historique apparaisse dans un second plan. Parce que quand les personnages vivent une histoire, l'histoire avec le grand H est qu'un arrière-plan. Et il ne faut surtout pas être trop précis, trop didactique, pas que ça sente l'affiche, si vous voulez, quand on raconte une histoire. Donc, moi, quand je me documente, je lis des journaux de l'époque, j'ai lu par exemple tous les rapports annuels de Paillard, qui est l'usine Bollet, etc., pour me mettre dans la conjoncture. Il parle du nouveau modèle, il parle de la conjoncture, de ce qu'ils font dans l'usine. Mais je prends très peu de notes, je m'imprègne pour pas justement qu'ensuite je sois tenté de faire un peu de l'affiche et que ce soit trop documentaire. Juste à la fin, quand c'est terminé, je vérifie certaines choses, parce que... pour que les dates, que tel modèle de caméra dans le livre soit vraiment à cette date, et comme ça. Donc voilà, c'était ça. Un des fonds, un des décors du livre, c'est quand même cet aspect un peu méconnu de l'histoire de la Suisse contemporaine.
Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, Roland Buty, vous imprégnez donc véritablement du décor. Alors, géographique, ça, vous y avez passé votre enfance à Sainte-Croix. Donc, pour le livre Les Petites Musiques, vous avez déjà le décor dans la tête avec vos souvenirs. Vous imprégnez du décor de la situation économique, de l'évolution de cet âge d'or de la mécanique suisse. Vous avez certainement le retour de lecteurs, de lectrices. Est-ce que ça influence votre écriture, Roland Buty ?
Non, je ne crois pas. J'ai effectivement beaucoup de retours des lectrices et lecteurs, mais quand on écrit étrangement, on écrit pour soi-même. On écrit parce qu'on est notre premier lecteur, et moi j'ai envie de raconter une histoire qui me plaît, avec des phrases que je peux relire. Moi je lis à haute voix quand j'écris pour voir si ça tient le coup chaque fois. Et non, on écrit vraiment pour ça, on ne pense pas du tout à un public. Si je devais penser à un public, je viserais effectivement un public féminin, parce que 80-90% des lecteurs sont en fait des lectrices, et en fait des... plutôt des femmes de plus de 50 ans, entre 50 et 70 ans. Ça, ce serait si j'avais un public cible, parce que dans notre canton, et peut-être un petit peu en Europe, c'est surtout ces lectrices-là qui achètent des livres. Mais voyez, c'est absurde. Moi, j'écris, au fond, pour un lecteur virtuel, mais qui est un peu moi.
C'est-à-dire
faut que ça me plaise à moi.
D'accord. Un peu vous, ensuite, un peu homme, un peu voilà. Suisse.
Oui, alors naturellement, on écrit de quelque part, on parle de quelque part. Donc moi, forcément, j'ai une vision occidentale, sûrement très suisse. Mais en même temps, je pense que la beauté de la littérature, c'est que quand je parle de Jana, ben, j'essaye de me mettre dans la peau d'une fille de 1970 qui veut être libre dans la nature. Si j'ai un personnage Rocca qui est ouvrier italien dans cette ville de Sainte-Croix, j'essaye de m'entrer dans lui, puis de me mettre dans sa psychologie, dans son état d'esprit, d'être un petit peu Rocca. Et c'est aussi le plaisir qu'on a comme lecteur. Et c'est pour ça que la littérature, à mon avis, est supérieure à beaucoup de choses et que c'est très important encore aujourd'hui de lire. C'est que c'est l'occasion de pouvoir avoir d'autres points de vue que le sien, d'entrer dans des personnages qui ne sont pas nous, de vivre à travers des personnages d'autres vies que la sienne, et donc de sortir de soi, ce qu'on a de plus en plus de peine à faire, de sortir de soi pour voir qu'il y a différents mondes, différents points de vue, et donc, à la fin, être meilleur avec les autres.
Et au final, comment vous décrivez votre façon d'écrire, le plaisir que vous en avez, Roland Buty ? C'est véritablement du plaisir d'écrire ou il y a aussi cette partie de doute inévitable, de peur, d'angoisse de la feuille blanche ?
Pas l'angoisse de la feuille blanche parce que je n'ai pas des millions de lecteurs qui attendent ce que j'écris, mais on a des doutes tout le temps. On a des doutes. Franchement, comme je l'ai dit, je reprends les pages 10 fois, 15 fois et on doute chaque fois quand même.
Mais alors, il y a un petit moment où...
Où en fait, on se dit, ouais, là, ça commence à être bien. Et là, quel bonheur. D'un coup, on se dit, OK, là, le paragraphe, ça tient le coup, je ne vais plus le toucher. Ensuite, l'homme est paradoxal. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire Sierzinal. Donc, c'est des gens qui vont avoir du plaisir à souffrir un martyr. Je veux dire, je ne sais pas comment ils font. Donc, c'est vrai que le doute, la difficulté, peut-être parfois... C'est pas une souffrance, n'est-ce pas? Mais ça fait partie aussi du plaisir, paradoxalement. Si c'était facile, si j'écrivais comme je parle, mais il n'y aurait aucun intérêt.
C'est la notion de souffrance comme récompense?
Peut-être c'est un peu une vision un peu catholique, mais le travail comme plaisir, parce que c'est dans l'effort, dans la difficulté qu'on va surmonter, qu'on peut trouver le plaisir. Et c'est comme ça que je vois les sportifs, parce que moi, je ne suis pas sportif du tout, je ne comprends pas comment on peut physiquement souffrir, par exemple, et trouver du plaisir. Mais visiblement, c'est le cas. Alors, on peut dire, chimiquement, on produit des hormones du plaisir, et je ne sais pas si on fait du sport. Mais je pense que la difficulté, le défi, de dire, voilà, je vais réussir à terminer cette page comme ça. Et ensuite, ça ne vient pas, j'attends, je vais marcher dans la forêt, etc. Puis peut-être 3 jours après, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, et on trouve l'idée, voilà. Donc, mais c'est que du plaisir, en réalité, parce que je me verrais mal avoir un métier, puis en fait, pendant mes temps de loisirs, m'infliger des souffrances. Genre, je vais écrire parce que j'aime pas ça. Enfin, comment dire, ce serait absurde. Ou c'est trop dur et je souffre. On a des moments de doute, heureusement. Parce que si j'étais sûr toujours de ce que je fais, ce serait sûrement très mauvais.
Roland Buty, on arrive au terme de cette rencontre double face. C'est un questionnaire du tac au tac. Je vous montre, ça ressemble à des questions courtes et donc des réponses théoriquement assorties.
Certes, je vais essayer.
On va faire ça. Votre plus grande qualité, selon vous, Roland Buty?
Je pense que je suis quelqu'un de gentil.
Votre plus grand défaut?
Mon plus grand défaut, c'est que je suis quelqu'un de gentil.
Votre habitude la plus désagréable, selon vous?
Alors, la plus désagréable, c'est que j'ai tendance à trop parler et à couper la parole. Et les gens qui parlent. Et je déteste quand je le fais. Au moment où je le fais, je me dis, mais j'arrive pas. Je dois faire un gros travail.
Et vous avez une tolérance pour ceux qui le font ou pas du tout?
Je déteste ça en plus. Oui, donc c'est complètement absurde.
Si vous deviez vous décrire en 3 mots, Roland Buty.
En 3 mots, je suis banal en fait. Très banal. Ensuite, assez timide et sociale.
Dans votre livre « Les petites musiques », il est beaucoup question de musique. Ce serait quoi, vous, votre petite musique ?
Alors, bizarrement, moi, je suis assez amusique. J'écoute très rarement de la musique. Dans la voiture, je fais les longs trajets sans musique. Je ne suis pas très musique, en fait. Donc, je n'aurais pas à dire. Je ne ressens pas le besoin d'écouter de la musique.
Si on revient à la littérature, votre auteur préféré ?
Auteur préféré ? Ben, je pense qu'au-dessus de tout le monde, il y a quand même Dickens et Victor Hugo comme romanciers.
Un conseil, une devise qu'on vous a donnée au début de votre parcours qui vous sert encore aujourd'hui ?
Bon, je ne sais pas si j'ai des devises, mais celle que je me dis chaque fois en écrivant, c'est « Fais pas le malin ».
Et vous avez choisi d'étudier l'histoire, tout en étant parallèlement écrivain. Pourquoi l'histoire ?
Ah, ça c'est une passion d'enfant, parce que quand on joue dehors, ben justement, on se prend pour des héros, pour Robin des Bois, etc. Donc, moi, je suis venu à l'histoire par les histoires.
Et quel serait votre plus grand défi pour l'avenir ?
Renoncer à tous ces écrans.
C'est envisageable, vous croyez ?
Oui, je pense que c'est envisageable, mais il faut beaucoup de force, en fait, pour renoncer à les écrans. Et j'ai eu la chance de naître, de grandir sans ces écrans. Parce que je pense que, comme tout le monde, je suis venu vraiment accro à ça.
Et selon vous, quelle est la chose la plus précieuse que vous possédez ?
Mes enfants. Ce n'est pas une chose. Hein, mais je pense que c'est la chose la plus précieuse, c'est quand même les enfants.
Et les 30 dernières secondes, Roland Buty, vous appartiennent. Elles sont pour vous. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en dites ce que vous voulez.
Oh là là, donc c'est très difficile. Donc, je veux dire que aux auditeurs, lisez des livres. Posez les écrans, prenez le temps, 2 heures, 3 heures, de vous plonger dans un livre. C'est le meilleur médicament, c'est de la méditation, c'est justement sortir de soi-même, et c'est à la fois sortir de soi-même et rencontrer les autres. Rencontrer des auteurs, et comment peut-on imaginer mourir sans avoir lu Les Mille et Une Nuits, Le Don Quichotte, ou des chefs-d'œuvre comme ça de l'humanité, qui font qu'on peut se sentir plus grand que soi-même et humain. Donc, lisez. Lisez Le Prix de Lausanne, mais lisez tout, les grands auteurs.
Et Le Prix de la Ville de Lausanne, eh bien, parmi les 5 auteurs et autrices, il y a donc vous, Roland Buty, Les Petites Musiques. Bonne suite à vous. Merci d'avoir partagé cette matinée avec nous.
Merci à vous.
Et votre livre, Les Petites Musiques, est disponible en accès libre sur le site du Prix du Livre de la Ville de Lausanne. Il est également disponible dans les bibliothèques et bien sûr dans les librairies. Et chaque personne peut voter jusqu'au 31 décembre.